RFI, 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Arthur Poncelet.
Et à la une, c'était il y a près de 80 ans, des tirailleurs sénégalais étaient tués par des militaires français dans le camp de Tiaroy. Pour la première fois, la France reconnaît qu'il s'agit d'un massacre, terme employé par Emmanuel Macron dans un courrier adressé à son homologue Bassirou Diomaye Faye. Coup de tonnerre dans les relations entre la France et le Tchad, N'Djamena met fin à l'accord de défense qui lie les deux pays. C'était hier soir, il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière, déclare le ministre tchadien des Affaires étrangères dans un communiqué. Certains ont dû patienter plus de 12 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne. En Namibie, la commission électorale prolonge le vote de 2 jours pour les législatives et les présidentielles dans certains bureaux, conséquence de nombreux dysfonctionnements dans l'organisation du scrutin. Au sommaire également, des efforts sont en train d'être faits pour lutter contre la pêche illicite au Sénégal. C'est ce que dit la ministre de la Pêche et puis de la musique. Revisite du répertoire traditionnel tunisien avec Nidal Yayaoui à la fin de ce journal. C'est une première pour un président français en exercice. Emmanuel Macron reconnaît qu'un massacre a eu lieu au camp de Tiaroy. C'est ce qu'il dit dans un courrier adressé à son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Il y a près de 80 ans, des militaires français ont tué des tirailleurs qui réclamaient leur solde de guerre. 70 morts, selon le bilan officiel, bilan contesté par les historiens, qui parlent plutôt de plusieurs centaines de victimes. Magali Lagrange.
On n'en est pas encore à l'exercice d'excuses, mais j'ai reçu une lettre du président Macron, explique Bassirou Diomaye Faye. Dans ce courrier, le chef de l'État français écrit que le 1er décembre 1944, la confrontation de militaires et de tirailleurs qui exigeaient que soit versée l'entièreté de leur solde légitime a déclenché un enchaînement de faits ayant abouti à un massacre. Pour le président sénégalais, c'est un pas qui doit ouvrir la porte à une collaboration pour la manifestation de toute la vérité. Bassirou Diomaye Faye évoque la chape de plomb qu'on a régulièrement cherché à mettre sur cette histoire. Dans son courrier, Emmanuel Macron mentionne aussi la quête de vérité historique. Il importe d'établir autant que possible les causes et faits ayant mené à cette tragédie, estime-t-il. Il souhaite être tenu informé de l'avancée des travaux du comité pour le rétablissement des faits mis en place au Sénégal. Le chef de l'État français appelle à poursuivre dans le temps la coopération entamée pour, je cite, « écrire la réalité de l'histoire et bâtir une mémoire partagée et apaisée ».
Magali Lagrange. Hier, Bassirou Diomaye Faye a aussi évoqué la présence des militaires français sur le sol sénégalais. Ils pourraient prochainement plier bagages. Nous n'avons pas de base militaire à l'étranger. Il est donc normal que nous n'acceptions pas d'éléments étrangers sur notre sol, déclare le président sénégalais au journal Le Monde. Les soldats français vont en tout cas devoir quitter le Tchad. C'est l'annonce faite hier soir par le ministre tchadien des Affaires étrangères. N'Djamena met fin à l'accord de défense avec la France, un tournant historique, dit Abderrahmane Koulamala. Côté français, pas encore de réaction à cette décision qui a pris tout le monde de court. Correspondance de Carole Valade.
Tombée en pleine nuit, l'annonce a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le ciel djaménois. Quelques heures à peine après la fin de la visite au Tchad du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui n'a rien laissé paraître au sortir de sa rencontre avec le président Mahamat Idriss Déby. La France doit considérer désormais que le Tchad a grandi et mûri, que c'est un État souverain et très jaloux de sa souveraineté, a simplement glissé son homologue tchadien, Abderrahmane Koulamala, qui, joint par RFI, parle d'une décision mûrement réfléchi, annoncé très symboliquement ce 28 novembre, qui marque le 66e anniversaire de la proclamation de la République du Tchad. Sans préciser s'il s'agit d'une décision unilatérale ou concertée, le ministre laisse entendre qu'elle devrait entraîner un départ du millier de soldats français stationnés dans le pays. Leur maintien serait contradictoire, dit-il, tout en assurant que ce retrait se fera selon les termes et dans les délais prévus par l'accord de défense. Carole Valade, N'Djamena. RFI.
Pendant ce temps, à Paris, Emmanuel Macron recevait, lui, son homologue nigérian hier. Bola Tinubu est en visite d'État en France pour 3 jours. Une visite largement centrée sur l'économie, avec un objectif, renouveler et élargir le partenariat entre Paris et Abuja. Pas d'annonce concrète à ce stade, mais des promesses d'investissement dans de nombreux domaines de la part du président français. Il est 7h35 à Bamako, au Mali. Assimi Goïta a demandé de créer les conditions nécessaires à l'organisation d'élections qui devront mettre un terme à la transition. C'était mercredi, lors du premier conseil des ministres conduit par Abdoulaye Maïga depuis sa nomination. Rien de neuf en termes d'affichage, aucune date n'a été annoncée. Et cela fait plus de 4 ans que les militaires qui ont pris le pouvoir promettent d'organiser des élections. Mais cette perspective, déjà plusieurs fois repoussée, semble désormais plus vraisemblable. C'est en tout cas l'analyse de Soumaïla La, coordinateur national de l'Alliance citoyenne pour la réforme du secteur de la sécurité.
Je pense que le processus est enclenché. La première raison, c'est que le projet de loi de finances 2025 prévoit une enveloppe pour la tenue des élections, un peu plus de 80 milliards de francs CFA. Le deuxième indicateur, c'est que quand vous prenez la composition du nouveau gouvernement, vous constatez qu'il y a un ministère délégué chargé du soutien au processus électoral. Cette appellation n'était pas incorporée dans le précédent gouvernement. Troisième indicateur, c'est aujourd'hui le fait que l'AIGE, l'autorité indépendante de gestion des élections, soit vraiment très active sur le terrain et en contact depuis un moment avec les partis politiques pour éventuellement aller vers les questions électorales, trouver un consensus. Donc ces trois facteurs me confortent dans l'idée que 2025 sera véritablement une question électorale. La grande inconnue, c'est la logique dans laquelle les élections vont être organisées. Est-ce que le président de la transition lui-même sera candidat? Est-ce qu'il ne sera pas candidat? Pour moi, c'est cette question qui reste floue pour le moment.
Soumaïla La, enseignant-chercheur et coordinateur national de l'Alliance citoyenne pour la réforme du secteur de la sécurité, joint à Bamako par David Baché. 2 jours supplémentaires pour voter en Namibie. Les élections présidentielles et législatives auraient dû se terminer mercredi soir, mais les Namibiens ont finalement jusqu'à demain pour glisser leur bulletin de vote dans les urnes. Décision de la commission électorale validée par le président sortant. Valentin Hugues, c'est le résultat de la forte participation, mais aussi de nombreux dysfonctionnements dans les bureaux.
Certains électeurs ont été privés de leur droit de vote, annonce la commission, parce que cette élection, qualifiée de la plus disputée de l'histoire du pays, avec le parti historique SWAPO sur la sellette, a surtout viré au fil d'attente interminable, manque de bulletins dans certains bureaux, matériel informatique qui dysfonctionne, résultat des citoyens qui font le pied de grue toute la journée devant les bureaux de vote, qui parfois doivent patienter plus de 12 heures dans une chaleur étouffante, ou qui n'ont tout simplement pas réussi à accéder aux urnes. Les partis politiques en lice se sont rapidement indigné d'une telle situation. Réponse de la commission, prolonger le scrutin. Mais pour certains partis d'opposition, ce vote devrait tout simplement être annulé. Le processus électoral devrait recommencer à zéro. Continuant de croire que le vote est délibérément perturbé par la commission électorale pour permettre à la SWAPO de rester au pouvoir. Finalement, la commission a préféré l'option d'étendre la période du vote encore 2 jours dans une trentaine de bureaux, notamment en livrant de nouvelles piles de bulletins pour permettre à l'ensemble des 1,4 millions d'inscrits d'accomplir leur acte démocratique. Reste que l'opposition pourrait ne pas reconnaître l'issue du scrutin. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Retour au Sénégal, où la ministre de la Pêche a tenu une conférence de presse hier. Des efforts sont en cours pour améliorer la transparence du secteur et la traçabilité des poissons exportés du Sénégal. C'est ce qu'elle déclare. Réponse au carton jaune adressé à Dakar par l'Union européenne il y a 5 mois. Bruxelles reprochait au Sénégal de ne pas lutter suffisamment contre la pêche illicite. Il y a 2 semaines, l'accord de pêche avec l'UE a finalement expiré. On écoute la ministre Fatou Diouf.
L'Union européenne a décerné des cartons jaunes parce qu'il a noté des défaillances dans le système de certification entre 2016 et 2020. Et ça, c'est vraiment avant notre arrivée, 4 ans avant, l'Union européenne a également accusé le Sénégal d'être complaisant aussi à l'égard de certains navires qui pratiquent la pêche illicite. Donc c'est à ce sujet-là. Et le carton jaune, donc le Sénégal est en train de travailler. Il y a des efforts qui ont été faits. Et il y a même une mission d'audit de l'Union européenne qui était là dernièrement. J'ai dit qu'il faut leur donner tous les documents, il faut leur ouvrir toutes les portes. Maintenant, ils sont repartis. Nous attendons le retour maintenant de leur rapport. Et ensuite, on avisera. Et actuellement, le Sénégal a un délai de 8 mois également pour se mettre aux normes par rapport, n'est-ce pas, à certaines exigences.
La ministre sénégalaise de la Pêche, Fatou Diouf, au micro RFI de Léa Lisa Vesterov. Et toujours au Sénégal, l'homme politique et ancien président du groupe parlementaire Beno Bok Yakar, Moustapha Diarraté, a été condamné à 2 mois de prison ferme pour discours contraire aux bonnes mœurs. Il s'en était notamment pris au Premier ministre Ousmane Sonko dans une émission télévisée et qualifié ses électeurs, je cite, d'électeurs dupés et les Sénégalais de peuple maudit. Après les législatives anticipées du 17 novembre dernier. On termine ce journal avec un peu de musique et avec surtout une star de la musique Chaoui, le Tunisien Ndial Yayaoui revisite le patrimoine musical de son pays en y intégrant des instruments modernes. Olivier Roger.
Ne dites pas à Ndial Yayaoui qu'il fait de la fusion. Sa musique est une transposition moderne d'air traditionnel, une adaptation qui s'appuie sur la force percussive du tbal, le bourdonnement de la flûte gapsa, auquel s'ajoute la guitare électrique et parfois même les consoles électroniques. Le chanteur des quartiers du Vieux Tunis, formé au conservatoire, musicien et musicologue, s'intéresse au répertoire traditionnel de sa région, du nord-ouest de la Tunisie, celle de Seliana, une musique proche de celle des Chaouis algériens. Ce soir, il proposera au public francilien un concert basé sur le projet Masreb El Ataya, Ndial Yayaoui.
Ataya, ce sont les travailleurs saisonniers qui viennent chaque année du sud-ouest jusqu'au nord-ouest. Et on a retracé ce voyage et on a récolté les poèmes et les chansons qui vont avec. Ces poèmes et ces chansons parlent de tout, de souffrance, parlent de l'amour, même de lutte.
Un chant des moissons aux accents à la fois festifs et poignants, s'appuyant sur un répertoire qui traverse les générations.
Ndial Yayaoui, pour refermer ce journal. Il est 7h42 en temps universel, une heure de plus à Paris. RFI Matin, suite et fin, c'est avec Julien Coquerel-Rohem.